Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première série estivale d'épisodes. Cet été, je vous propose un contenu 100% sans filtre, sans tabou, avec des entrepreneurs de tous les horizons sur des sujets qui m'intéressent et qui, je n'en doute pas, vont vous intéresser également. Pour celles et ceux qui regardent et écoutent le podcast pour la première fois, je m'appelle François Allais et j'ai créé ce podcast en décembre 2017. Il est disponible aussi bien ici, sur toutes les plateformes audio, que sur YouTube en vidéo. Serial Entrepreneur fait donc son retour aujourd'hui pendant 6 semaines avec 6 épisodes tout l'été, tous disponibles en vidéo et en audio. Pour ce 24e épisode, j'ai reçu à distance une jeune entrepreneure passionnée et passionnante, Soraya Jaber. Elle a cofondé Minsar, un CMS pour créer des expériences immersives en 3D sans avoir besoin de coder. Avec elle, on parle de son parcours, des étapes de création de Minsar, de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée et bien d'autres sujets pendant une cinquantaine de minutes. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast et à t'abonner à ma chaîne sur YouTube, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente écoute et à la semaine prochaine. Ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Soraya Jaber. Salut Soraya.
Hello François, merci pour l'invitation.
Très heureux de t'accueillir à distance pour ce nouvel épisode. Soraya, tu es la CEO et la cofondatrice de Opuscope, qui est finalement un CMS pour les expériences immersives qui a été fondé en 2016. Tu es également vice-présidente de la VR-AR Association de Paris. Et donc, on va pouvoir commencer cet épisode très tranquillement avec ton parcours et notamment quel a été ton parcours avant d'entreprendre, c'est-à-dire avant de créer justement Opuscope.
Oui, alors déjà, je suis ravie d'être dans ce podcast. Merci pour l'invitation encore. Donc, j'ai un parcours très atypique dans le sens où je n'ai pas suivi un peu la voie royale pour entreprendre. Je n'ai pas fait de prépa, d'école de commerce, HEC. En fait, c'est un petit peu tombé par hasard, on va dire, à l'entrepreneuriat. Ça m'est tombé très jeune. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à me lancer dans l'aventure. Et moi, du coup, en fait, après avoir fait un bac scientifique, je me suis lancée dans une licence d'histoire de l'art. Parce qu'avant tout, en fait, je suis passionnée par l'histoire, par l'art, par la culture. Et j'ai pas suivi la voie un peu familiale où j'ai une famille de scientifiques. Et après avoir fait, voilà, pendant mon bac scientifique, je devais faire médecine, enfin voilà, suivre un petit peu cette voie. Et c'est en terminale que je me suis rendu compte qu'en fait, ma passion, c'était vraiment l'histoire, l'art, la culture. Et que j'avais envie, et que je savais que de toute façon, pour réussir, il fallait être épanoui dans ce que l'on fait. Et donc, j'ai suivi ce qui me passionnait vraiment, qui n'était pas du coup forcément les sciences ou les mathématiques, mais bien la culture. Et j'ai intégré donc la licence histoire de l'art à Paris 1 pendant Sorbonne.
Ok. Et justement, quel a été le déclic en fait qui a fait que tu as créé Opuscope ?
En fait, c'était au cours de ma troisième année, avant ma troisième année de licence. En parallèle du coup de mes études, je travaillais au musée des arts décoratifs en tant que job étudiant, week-end, soirée. Et en fait, je me rendais compte que à l'université, voilà, on a beaucoup de personnes qui se rendent de façon régulière dans les musées, mais qu'en fait on est vraiment une sorte de minorité et qu'au final, enfin, il y a un chiffre qui m'a vraiment un peu interloqué. C'était en 2015, je me suis rendu compte, j'ai appris que même pas 10% de la population française se rend plus d'une fois par an dans un musée. Donc ça m'a, enfin, je me suis dit voilà, on est vraiment pas assez sensibilisé, on n'a pas l'habitude d'y aller. Ouais, je sais pas si toi tu y vas régulièrement.
Bah, même moi j'ai plus le temps d'y aller, mais occasionnellement, c'est vrai que, enfin, sur une année, c'est vrai que c'est pas très régulier quoi, comme on voudrait.
Et moi j'y étais du coup toutes les semaines. Enfin, ça me passionnait. Je me disais mais c'est dommage parce qu'on a un patrimoine, une culture assez incroyable. Voilà, comment on va pouvoir sensibiliser plus de personnes à s'y rendre. Et c'est avec mon meilleur ami du coup Thomas qui lui était à l'époque, donc il était à Paris Descartes en informatique, et il était également le développeur principal de VLC Media Player. C'est le petit cône orange pour lire les vidéos.
Connu mondialement.
Exactement, et c'est d'ailleurs le premier logiciel français téléchargé à travers le monde.
C'est assez
fier de,
ouais,
de ce qu'a fait les équipes VLC, de ce qu'ont fait les équipes. Et voilà, il développait donc la plateforme pour Microsoft. Et en fait, tout est parti d'une séance cinéma, d'un film qu'on a vu ensemble, et d'une phrase assez bête en sortant du cinéma où j'ai lancé, mais ce serait incroyable de pouvoir visiter en fait de façon immersive les lieux culturels. Et justement, donc, Thomas me dit à ce moment-là, mais tu sais que c'est possible. C'est en 2015 et il me dit, mais tu vois, enfin, tu prends il y a la réalité virtuelle, je connaissais pas du tout à l'époque. Il me dit, avec un casque, en fait, tu peux naviguer dans des environnements virtuels et pourquoi pas la culture. Là, je me dis, waouh, c'est incroyable, je ne me sais pas encore. Et du coup, on achète un Oculus, un DK2 à l'époque, on commence à tester, on voit le potentiel. Je me dis, mais c'est absolument incroyable, c'est la possibilité de visiter des sites culturels, des musées, depuis chez soi, depuis son salon. Et c'est là qu'est un peu né, du coup, le début, l'origine d'Opuscope, dont l'objectif était de réinventer en fait les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies. Donc à la fois la réalité virtuelle, en utilisant des casques, être en immersion dans un autre monde et donc couper ton environnement, et à la fois en fait ramener le public, les jeunes publics aussi sensibilisés aux nouvelles technologies dans les lieux culturels par la réalité augmentée. Donc cette fois vraiment augmenter l'environnement, augmenter les salles muséales, les châteaux, les monuments par cette réalité augmentée. Okay. Ça, c'était le tout début. On est encore en 2015 et ce sont les prémices de l'entrepreneuriat. Ouais. On a chacun 19 ans. Je rentre en troisième année de licence. Thomas, il rentre à Epita. Et ce petit projet, en fait, commence à prendre de l'ampleur. J'en parle, du coup, au sein de mon université. Ils sont très intéressés, du coup, par le projet. Ça monte assez rapidement au sein de l'université qui devient nos premiers partenaires, donc pas rien. Et également, du coup, le musée des arts décoratifs dans lequel je travaillais devient aussi un de nos premiers partenaires. On commence à itérer, à voir comment créer ce futur de la visite muséale. Et on débouche, du coup, sur l'immatriculation d'Opuscope en février 2016.
Ok. Donc, j'allais te poser du coup comme question, comment as-tu rencontré ton associé? Mais du coup, c'est en fait ton meilleur ami. Et avec lui, vous avez créé Opuscope, du coup. Et du coup, quelles ont été les étapes de création de ce produit, du premier produit, du coup, Minsar,
suite à ta création? Alors, ouais, il y a eu pas mal d'évolutions depuis.
Ouais.
Là,
plusieurs noms, j'ai cru comprendre.
Il y a eu plusieurs noms, mais promis, on ne change plus. C'est Minsar. S'il y a un nom à retenir, même pas Opuscope, vraiment, c'est la structure juridique. C'est vraiment juste pour.
On parle que de Minsar.
On n'a pas de trace. Voilà, on parle que de Minsar. Donc ça, c'était vraiment le tout début. C'était le tout début d'Opuscope. C'est pour ça que j'étais pas forcément prédestinée à me lancer dans l'entrepreneuriat, même si. Depuis toute petite, voilà, j'adore créer des projets, j'adore fédérer des personnes autour de moi pour construire quelque chose. Et là, du coup, c'était notre première entreprise qui m'en fonde donc début 2016. Mmh. Et en fait, tout est allé assez rapidement. Thomas, il était également à l'époque, il s'est fait nommer Microsoft Regional Director, qui est en fait le statut de consultant le plus haut pour les équipes produits de Microsoft, ce qui nous a permis en fait d'être une des premières entreprises en Europe à avoir les Microsoft HoloLens. Je ne sais pas si tu connais. On l'a eu début 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Microsoft HoloLens, c'est une paire de lunettes de réalité augmentée. On parle aussi de réalité mixte parce qu'on va aller du coup ajouter en fait du virtuel dans l'environnement sans être coupé de cet environnement. Et donc, on a commencé début 2016 à concevoir des expériences pour cet appareil. Au début, uniquement pour la culture. Et en fait, très rapidement, on s'est fait approcher par de très nombreux secteurs, en fait. Pas uniquement la culture, justement. Et on voyait qu'il y avait énormément d'intérêt pour cette technologie. C'était le tout début. Ça venait de sortir et tout le monde voulait avoir un petit peu son POC, son proof of concept. Ce qui est du coup la réalité augmentée, réalité mixte dans leur core business. Et on s'est rendu compte que en fait, le potentiel de cette technologie il est énorme, mais un peu dans toutes les industries.
C'est ça.
Et on s'est rendu compte très rapidement que voilà, ça pouvait pas rester uniquement dans un secteur, et qu'en fait, la véritable problématique, c'était pas, enfin, qui était du coup liée au début à la culture, mais en fait, c'est une problématique de création, de créativité. Ouais. Et la problématique à l'époque, et on la retrouve encore aujourd'hui, c'est la création en fait de ce contenu 3D, de ce contenu de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à créer du contenu pour ces nouvelles plateformes, que ce soit donc des casques de réalité virtuelle, des paires de lunettes de réalité augmentée. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment dès l'été 2016 à se dire que bah, la brique techno qu'on utilisait en interne pour créer facilement des expériences pour nos clients, que ce soit la culture, que ce soit on a fait des POC pour l'industrie, pour enfin voilà pour tous les secteurs pour voir en fait l'intérêt de la techno. En fait, ce dont l'industrie allait avoir besoin, c'était d'une plateforme pour créer ces expériences, pour être autonome en fait dans la création. Et on a compris très rapidement en fait dès l'été 2016 que c'était un SaaS, c'était une plateforme qui allait être le prochain challenge pour l'industrie. Qui était donc de qui est vraiment de créer facilement des expériences et notre postulat est vraiment que la création 3D doit se faire en 3D. On doit visualiser en fait tu vois quand que ce soit dans un musée où tu vas aller augmenter une salle muséale ou que ce soit en retail en store où tu vas pouvoir créer une expérience plus immersive, plus engageante pour le client.
Ok, donc la mission, c'est vraiment rendre accessible la création de contenu en réalité virtuelle et en réalité augmentée, c'est ça ?
Exactement. On a élargi un peu le scope en développant une plateforme vraiment horizontale.
En fait, c'est ce qu'on appelle la XR, du coup, la réalité étendue, c'est ça ?
Ouais, étendue plus le X comme le petit X pour réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Justement, on s'y perd un peu.
C'est
vrai,
quand on n'est pas dedans. De rappeler les différents termes, c'est...
Ouais. Okay. En fait, souvent, quand j'explique la différence, je me base sur en fait, la première fois que ça a été théorisé. Ce ne sont pas des nouveaux termes. Hein. Réalité mixte, ça a surtout été déployé avec Microsoft en 2015-2016. Mais en fait, le terme de mixed reality a été théorisé en 1994.
Okay.
Tu vois, j'étais même pas encore née. Je crois que toi non plus. Donc voilà, ça fait pas si longtemps. Et en fait, en 94, on a Paul Milgram et Fumio Kishino qui ont défini le Reality Virtuality Spectrum, qui est en fait un spectre qui va de notre environnement physique, réel, tangible, donc sans technologie. Et l'autre extrémité du spectre, c'est la réalité virtuelle, complètement virtuelle. Cette fois, tu vois, tu as un appareil et tu es coupé de ton environnement.
Okay.
Et en fait, c'est comme un curseur, tu vois, du coup, la réalité augmentée, c'est un curseur que tu vas placer sur ce spectre où tu vas du coup ajouter du virtuel dans ton environnement. Et l'appareil de réalité mixte, c'est un petit peu du coup cet appareil ultime qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui, mais qui est un appareil qui sera capable de couvrir tout ce spectre. Dans le sens où tu vois, tu pourras décider de pas ajouter de contenu dans l'environnement ou alors ajouter énormément de contenu jusqu'à être en totale immersion. Et aujourd'hui, les appareils qu'on a, donc que ce soit Microsoft HoloLens, Magic Leap, je pense qu'on en parlera après, ou Unreal, enfin voilà, les constructeurs émergents, il n'y a pas encore d'appareil qui permet d'avoir une totale immersion parce que le champ de vision n'est pas encore de 90, 100, 180 degrés, tu vois. Donc c'est
Ok. Et pour revenir un peu on va revenir à ce sujet-là, mais pour revenir aux étapes de création, quand est-ce que vous avez officiellement lancé, du coup, Minsar, on va dire une V1, quoi?
Ouais. Il y a eu plusieurs étapes. Du coup, la première étape, qui était, uniquement culture. On a commencé, du coup, à réfléchir à cette plateforme, à ce logiciel, à partir de été 2016. Donc à l'époque, le logiciel s'appelait Holostoria. Holostoria parce que justement, on avait conçu en partenariat avec Microsoft HoloLens. Et nous, notre positionnement était vraiment de créer une plateforme immersive. Donc d'exploiter vraiment les capacités de ce qu'on appelle l'informatique spatialisée, qui n'est pas donc cette informatique comme on le connaît, tu vois, ton écran, mais qui va vraiment comprendre l'environnement et qui va aller l'enrichir, l'augmenter par du contenu en le reconnaissant. C'est beaucoup d'IA derrière, de reconnaissance de l'environnement, de scan, d'ajout d'informations. Et donc, Holostoria, on commence le développement été 2016. À l'époque, on avait une équipe de deux développeurs. Donc, c'était voilà, vraiment le tout, tout début. Un de nos choix, en fait, qui nous a différencié aussi de ce qui existait à l'époque, c'est qu'on a très rapidement, recruté notre troisième employé, donc une expert UX, donc expérience utilisateur.
Oui.
Parce qu'au final, enfin, vraiment, l'utilisateur est au centre. Dans le sens où développer une technologie uniquement pour développer une technologie sans penser à la fois l'utilisateur et également à la personne à la fin qui va visualiser l'expérience, bah, ça n'a pas d'intérêt. Ça va rester une brique techno et ce ne sera pas forcément bien utilisé. C'est pour ça qu'on a très rapidement en fait, mis l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur au centre du développement, dans le sens où on voulait vraiment rendre intuitif, simple la création. Donc ça, voilà, dès 2016, c'est ce qu'on a souhaité faire. On a compris que le développement de cette plateforme, ça allait prendre du temps, que voilà, il y avait encore plein de challenges à régler, que ce soit niveau hardware, niveau
ouais, c'est un énorme produit tech, quoi.
Ouais, c'est une énorme brique tech, surtout que l'ambition dès le départ, c'était d'être cross-plateforme, donc d'être à la fois disponible sur HoloLens, mais également les casques de réalité virtuelle et les plateformes émergentes donc de réalité augmentée. Et plus tard, on a aussi intégré du coup smartphone, tablette, parce que le marché est là aujourd'hui. C'est pas encore démocratisé les appareils. Et voilà, donc on a compris que voilà, on avait besoin de chercher des fonds pour financer, développer cette plateforme. Donc très rapidement, en fait, en 2016, on a commencé une première levée de fonds, donc en amorçage. À l'époque, on avait voilà plein d'idées, une grande ambition, réinventer, la création et justement, moi étant passionné d'histoire avant tout, ce que je fais tout le temps, c'est étudier en fait le passé, comprendre aussi les patterns, parce qu'au final, ça c'est cyclique, ça se répète. L'évolution, c'est les hardware, elle est dans le sens de compréhension de l'environnement. Mais derrière, pour créer du contenu, on peut faire le parallèle avec le début des années 2000 où on a le web et créer la moindre page sur le web nécessite des développements. On n'a pas encore de plateforme début 2000 permettant de créer facilement une page web, créer un blog, etc. Et enfin, en 2003, on a eu Révolution WordPress, ensuite tous les autres CMS qui ont permis de pouvoir donner en fait aux créateurs, aux créatifs la possibilité de s'exprimer et de créer du contenu sans avoir soit à monter en compétences techniques, être développeur, soit faire appel à un développeur et perdre un petit peu du coup le cycle de l'idée jusqu'à la délivrance du produit. Okay. Nous, c'est exactement ce que l'on fait, c'est donner en fait le pouvoir un petit peu aux créatifs, tu vois, pour les laisser autonomes dans la création. Parce qu'on sait que tant qu'il n'y aura pas de plateforme d'outils simple d'utilisation, avec respectant des standards permettant de distribuer aussi facilement ce contenu, une technologie ne pourra jamais être démocratisée. Il faut vraiment libérer les créateurs, les créatifs. Ce qu'on a vu avec la vidéo, aujourd'hui, on peut très facilement, même nous, on fait un podcast, etc. Mais voilà, ça a pris du temps. Au début, c'était beaucoup plus compliqué. Et voilà, on répète en fait des patterns qui.
Ouais, carrément. Et du coup, donc, c'est cette première mini levée de fonds. Ensuite, je crois que vous avez levé plusieurs fois aussi. Une première de environ 300 000 euros. Ensuite, un peu moins d'un million. Et là, plus récemment, il y a quelques mois, 3 millions, c'est ça?
C'est ça. En fait, on a fait c'était une levée amorçage qu'on a fait en deux temps avec les mêmes investisseurs, donc des business angels du groupe Investors ou Lake Startup. Je sais pas si tu connais, mais ouais, on a levé assez rapidement avec eux.
Comment vous avez fait du coup cette première levée justement, notamment vis-à-vis de votre âge, des deux fondateurs,
Tu sais, on ne disait pas notre âge. C'est vraiment tout récemment depuis non mais bon on est des jeunes, on a pris un peu des non, pas encore des cheveux blancs mais on a pris de l'âge avec les années, mais clairement on nous voyait comme deux petits extraterrestres qui parlaient d'une techno qu'ils comprenaient pas, mais en fait on était tellement complémentaires dans le sens où Thomas c'est un génie de l'informatique, il a été c'est le plus jeune Microsoft Regional Director, ils sont une cinquantaine à travers le monde. Il a été nommé pour son troisième mandat. Il a refait toute la version VLC sur Windows tout seul. Enfin, il est vraiment impressionnant. Et moi, c'est plus la partie business, fédérer les équipes, aller chercher des financements, rêver, la vision aussi. Tu vois vraiment la créativité. Enfin, c'est passionnant ce qu'on fait. C'est passionnant ce qui va arriver, le potentiel de cette techno dans tous les secteurs, soit même l'éducation, même. Alors, je pense qu'on en parlera après, mais donc ouais, au début c'était difficile, hein, clairement, de lever des fonds aussi jeune, plus en tant que femme, dans la tech. Ouais, des fois c'était un peu compliqué. Des fois en fait on regardait que Thomas. Enfin moi ça m'a beaucoup.
C'est clair que c'est un secteur où il y a encore beaucoup de choses à faire en tant que femme.
Ah, il y a très peu de femmes, clairement. Clairement, on n'est pas assez, et d'où l'importance de ouais d'être plus visible. Ouais, d'accéder, enfin, de rendre plus visible pour motiver plus de personnes aussi, plus de jeunes femmes, filles à entreprendre dans la technologie, à faire des études technologiques et monter des entreprises aussi.
Ça vous a pas empêché de lever et puis de créer un beau produit après plusieurs années, donc c'est rassurant.
Merci. Ouais, c'est rassurant. Bah voilà, enfin, c'est tout le monde. J'aime bien la phrase de Oussama qui dit que. Oui. N'importe qui peut entreprendre, pas exactement. Tout le monde peut entreprendre, mais enfin voilà, ça peut être anyone can be entrepreneur.
C'est ça.
J'adore ça, moi, je pense qu'on va peut-être.
J'adore après. Aussi.
Ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris avec ces vidéos, parce que du coup, ouais, j'ai pas fait de. J'ai tout appris.
Oui,
un
tu
peu,
t'es, tu t'es formée toute seule, que ça soit sur la réalité virtuelle, sur c'est que des sujets
surtout.
Finalement.
Le business, le management, la comptabilité, enfin, et ça qui est génial parce que enfin il y a tellement de choses à apprendre. Il y a pas une journée où j'apprends pas, et c'est ça qui me passionne, c'est de apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un de très très curieux par nature, des fois un peu trop petit,
jamais trop. La curiosité, c'est
jamais trop. Mais au final, ouais, je me rends compte que ce qu'on m'a toujours dit comme un défaut, ou arrête de poser des questions, ou tu poses trop de questions. Mais en fait,
non plus.
Ouais, clairement, mais je le vois.
Non, c'est donc, vraiment une richesse. Et du coup, pour revenir à Minsa, justement, après ce premier seed, on va dire, comment l'équipe a grandi aussi, puisque j'imagine que vous avez recruté plus de développeurs, comment le produit a évolué.
Donc à l'époque, donc en 2017, donc voilà, on fait cette première partie de, donc vraiment pré-amorçage, dans le sens où on a une idée, on a même pas un MVP, enfin, c'est vraiment un petit POC de ce qu'on voulait faire. Donc, on lève, 350 000. On commence à recruter une équipe, plus de développeurs. J'ai l'impression que ça fait 10 ans maintenant. Enfin, c'est passé tellement de choses depuis. Et c'est en 2018 qu'on a refait un tour de table. On a eu aussi des financements par l'État. Je tiens quand même à le dire, l'État, on a de la chance quand même en France. On est soutenu, les entrepreneurs, on peut quand même chercher des financements. D'ailleurs, tous les projets n'ont pas besoin de lever des fonds, hein, justement. Si on peut aussi ne pas lever, tant mieux. Hein.
C'est clair.
Nous, on n'a pas le choix parce qu'on est à la fois dans la deep tech, à la fois aussi sur un marché qui est émergent et qu'on a besoin de financement pour développer la plateforme. Mais donc 2017, 2018, on accélère le développement et c'est en fin 2018 qu'on arrive à un premier. MVP, plateforme qu'on commence à ouvrir en bêta. Notre objectif était d'avoir vraiment du feedback de plusieurs industries, parce qu'on a travaillé du coup en collaboration avec nos partenaires culture. Donc en 2016, on était en partenariat avec le ministère de la Culture, avec, comme je t'avais dit, le musée d'art décoratif, mais également le Centre des monuments nationaux, qui régit en fait les 100 plus grands monuments de France, et le musée national d'archéologie. Et la culture, au final, c'est un très bon terrain d'expérimentation, dans le sens où ils sont très exigeants peu de connaissances techniques. Donc, c'était parfait pour nous. On voulait vraiment que n'importe quel scénographe, commissaire d'expo puisse utiliser la technologie sans avoir à se former à la technologie. Donc, on a pu faire pas mal de POC avec eux, notamment en novembre 2017. Donc ça, c'est la première fois où on a pu vraiment tester en fait toute la boucle de l'idée d'un projet à la création et à la distribution. Donc c'était au château de Pierrefonds. Je ne sais pas si tu connais, dans l'Oise. Donc c'est un super château, et en fait dans la salle des armures, qui s'appelle salle des armures parce qu'il y a deux siècles, il y avait des armures de Napoléon. Et aujourd'hui, comme la plupart des monuments ont été en fait vidés, dépecés de leurs œuvres, et aujourd'hui ces armures sont aux Invalides en fait justement là la technologie elle est absolument incroyable parce qu'elle permet en fait de recontextualiser une salle et de replacer en fait les armures dans leur écrin d'origine. Et donc, c'est vraiment en novembre 2017 que la chargée des publics du château, Caroline Calpena, qui a pu replacer en fait les armures dans leur espace d'origine. Elle l'a fait en 15 minutes. Et l'expérience a duré pendant un week-end. On a eu 200 visiteurs qui sont venus de tout âge. Et voilà, et justement, on a vu aussi que ce n'est pas forcément les jeunes, comme on peut penser, qui étaient les plus émerveillés, mais ouais. Aussi des personnes plus de 60 ans qui disaient, mais c'est, ouais, de tout âge, ils disaient, mais c'est incroyable, il faut le déployer dans tous les, les châteaux.
Tu mettais un casque de réalité virtuelle, ouais. C'était réalité virtuelle, c'est ça ?
Non, il était augmenté. Virtuel, en fait, ouais, t'es vraiment poupée.
Oui,
de...
c'est ça. Ouais, donc augmenté, tu voyais les armes, du coup, en réalité augmentée.
Ouais. Okay. Exactement. Tu t'approchais d'un endroit, tu avais le contenu sonore qui se déclenchait, tu t'approchais d'un mur, il y avait des statues qui apparaissaient. Donc voilà, en fait, c'était vraiment l'étude pour comprendre si il y avait de l'intérêt derrière. Et donc oui, à 95%, les personnes voulaient revenir dans le lieu culturel, etc. Mmh. Donc ça, c'est vraiment 2017-2018. On a fait plein de tests avec nos partenaires. On ouvre les bêtas fin 2018. 2019, il y a eu quand même une grande update début 2019. C'est que pour l'instant, on était surtout en partenariat donc avec Microsoft Corp, US, où on travaillait sur HoloLens. Et en fait, leur concurrent direct, Magic Leap, a ouvert un programme fin 2018 qui était un programme en fait de financement et d'accompagnement des meilleurs projets pour eux sur leur plateforme, pour pouvoir leur permettre de développer sur le Magic Leap One. Et on a appris début 2019 qu'on était sélectionnés. Donc, on était super contents. Donc, on a été bien financés pour pouvoir porter sur leur plateforme. Et voilà, aussi avoir le soutien des deux leaders de l'industrie, ça nous a pas mal... Et en plus, à ce moment-là, on devait refaire un tour de table, donc cette fois faire notre vrai levée seed. Parce que cette fois, on avait un MVP, on avait un début de traction. Et cet investissement, du coup, a décalé un peu, enfin, ça nous a laissé le temps de décaler un peu la levée de fonds.
Ouais.
De commencer en septembre dernier. Du coup, niveau timing, trop bien. On ne savait pas que Covid, ça allait arriver.
C'est un très, très bon timing.
Mais ouais, en fait, ça allait très, très vite. Ce tour seed, en quelques semaines, en fait, on a eu première. LOI, on a signé tout bouclé fin novembre.
Okay.
Vraiment aller très vite. Et ça nous a permis de passer aussi cette crise. On espère, la passer cette crise. Mais on a pu, donc cette fois, 3 millions.
Ouais.
Et recruter vraiment l'équipe manquante, plus de développeurs. C'est une grosse plateforme parce qu'aujourd'hui, on est disponible sur Microsoft HoloLens. Sur Magic Leap, mais aussi ce qu'on a fait en 2018, c'était ouvrir en fait le développement sur smartphone, tablette. Mm. Parce qu'au final, même si notre vision, notre objectif, c'est de pouvoir créer à même la plateforme immersive, casque, la paire de lunettes, c'est que ça prend du temps. Tant que Apple n'a pas sorti sa paire de lunettes, prendre.
C'est clair.
Et on en a conscience, on en est vraiment encore au début. Hein. Si tu vois un peu la courbe d'adoption des nouvelles technologies, c'est des phases qui se répètent à chaque fois et on est encore au tout début qui est les innovators, les créateurs de solutions et de hardware, software, hardware. Ouais. Et on est un petit peu après qui est première personne qui adopte la technologie.
Ouais.
Ensuite, il faut passer cette étape et atteindre donc la majorité de la population. On a besoin de plus de contenu. Parce qu'au final, quand tu achètes un casque et que tu n'as que quelques expériences à faire,
c'est clair.
On a besoin de.
Et donc Minsar, c'est du B2B, mais c'est aussi du B2C, c'est ça ?
Alors, c'est B2B. C'est, dans le sens, on s'adresse aux professionnels de la créativité,
okay.
Mais qu'on a des end consumers qui utilisent aussi Minsar pour eux-mêmes. Okay. La création est gratuite et on a vraiment pour objectif de rendre accessible cette technologie qui est aujourd'hui trop élitiste. Aujourd'hui, si t'es pas dev 3D, si tu maîtrises pas les moteurs 3D comme Unity 3D, Unreal Engine, tu vas pas pouvoir créer vraiment d'expérience sur ces nouvelles plateformes.
Ok, j'ai vu au niveau de votre pricing, vous avez 4 packs du coup. Un premier pack gratuit, puis après plusieurs packs évolutifs. Donc par exemple, si demain un créateur 3D va sur votre plateforme, c'est quoi les étapes du coup ? Il crée son compte, comment ça se passe ?
Ouais, trois étapes très simples. Première étape, c'est de télécharger l'application Minsar, donc que ce soit sur un téléphone ou un appareil immersif, si la personne a. Et vraiment, enfin, je tiens à dire, la création en immersion, elle est beaucoup mieux, dans le sens où sur ton téléphone, sur ta tablette, ce que tu perds, c'est la troisième dimension.
C'est ça.
Alors qu'avec le casque, tu as vraiment l'impression de 3D. Et au final, on se rend compte que l'édition d'une expérience 3D en 3D, voilà, se fait de façon beaucoup plus intuitive parce que voilà, on arrive à mieux appréhender les distances. Donc voilà, on perd en fait vraiment cette immersion avec la tablette, mais c'est essentiel aujourd'hui pour permettre vraiment à n'importe qui de comprendre le potentiel de la techno et de l'utiliser dans leur secteur d'activité. Que ce soit l'immobilier pour visiter les appartements en réalité virtuelle, que ce soit l'éducation, réaliser pareil des cours en immersion. On a en fait ce que permet la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est de simuler le souvenir. Ce qui permet du coup de mieux apprendre, de mieux comprendre et mémoriser quelque chose. Okay. Donc pour l'éducation, c'est absolument parfait. Et pour le Covid, si toutes les écoles avaient déjà implémenté ces technos, ça aurait été beaucoup plus simple pour faire des cours immersifs.
C'est sûr.
Pour tous les secteurs, peut trouver son intérêt.
Et donc, on prend l'exemple avec le casque. Du coup, il prend son casque, il installe Minsar. Et à partir de là, il peut créer du coup.
Et là, il peut commencer à créer. En fait, Minsar, on peut le comparer, à un CMS 3D, mais dans la création, un peu à un PowerPoint. Dans le sens où Minsar permet d'importer du contenu, ton contenu, le contenu de nos utilisateurs. Donc, importer des modèles 3D,
s'ils
en ont, des images, des vidéos 360, des vidéos volumétriques. Ça, je sais pas si tu connais, mais c'est le fait de capturer en fait avec plein de caméras quelqu'un en mouvement, un danseur ou autre. Ça, le créatif va pouvoir l'importer dans la scène et ensuite commencer à l'animer. Parce qu'une fois que voilà, on a importé ce contenu, on va vouloir en créer une expérience interactive, innovante, engageante et ajouter du coup des animations sur les objets. Par exemple, je suis sur le site de telle ou telle entreprise et je veux afficher ces chaussures en 3D. Je vais cliquer dessus, ça va l'afficher sur ma table et je vais pouvoir faire tourner les éléments, ajouter d'autres informations, cliquer par exemple en cliquant sur la chaussure, ça redirige vers le bon site internet. C'est en fait éditer les éléments et créer vraiment une scénographie, scénariser en fait le contenu.
Okay.
C'est un peu c'est le storytelling qui est au final du story living et qui permet de accélérer l'action d'acheter vraiment.
Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la typologie de vos clients ?
Alors aujourd'hui, ce sont vraiment les professionnels de la créativité qui sont de différentes sortes. On a les freelance, graphic designer, les agences de création qui vont qui ont déjà un pipeline de clients et qui vont créer du coup les campagnes marketing, les campagnes produits pour leurs différents clients, peu importe leur secteur. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les grands groupes, les entreprises qui ont déjà un pôle créa en interne, qui préfèrent internaliser la création et qui vont utiliser et déployer en fait en interne Minsar comme module de réalité augmentée, que ce soit par exemple pour le real estate, l'immobilier, déployer dans toutes les agences la possibilité de visualiser le parc immobilier en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Ça c'est possible.
Okay.
On a des belles expériences à venir.
Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Minsar ? Vous êtes combien de salariés ? Combien de clients, par exemple, tout ça.
Ouais. Donc aujourd'hui, on est 26 employés. Clients, on lançait la commercialisation là pendant le Covid, donc pour le coup, très mauvais timing. Donc la plupart, c'était un peu compliqué. C'est pas le bon moment pour lancer un produit.
On va en parler juste après aussi de ce Covid.
Ouais. Du coup, client, on a. Qui je peux citer? Je pourrais bientôt en citer
Ok,
pas mal, des
ouais.
grands noms.
Très
Ouais.
bien.
Sinon, on a des agences partenaires,
Ouais.
des agences de création 3D. Une des expériences qui avait été mise en prod juste avant le Covid, d'ailleurs, 2 semaines avant le Covid, c'est avec Miyume. Je ne sais pas si tu connais, c'est les
Ok,
leaders
non.
du packaging cosmétique.
Ok.
Et en fait, qui souhaitent proposer à leurs clients, que ce soit un L'Oréal, un Sephora, etc., de proposer en fait le packaging en réalité augmentée.
Ouais,
Et
forcément,
ils
c'est
avaient fait du coup une
intéressant.
mise, une expérience juste avant le Covid et plus à venir prochainement. Donc, il y
Ok,
a...
très bien. Et du coup, c'est quoi les objectifs futurs pour Minsa?
L'objectif, c'est
Pour les prochains
toujours
mois, les
de.
prochaines années.
Ouais, bah c'est de vraiment lancer la plateforme, de la commercialiser, de mettre vraiment en fait à réalité augmentée le potentiel de ces technos dans les mains de tout le monde, de se rendre compte en fait de l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui les technologies sont pas encore assez connues et insister sur l'expérience utilisateur dans le sens où l'expérience doit être qualitative pour l'utilisateur final. Si l'expérience est déceptive, si quelqu'un met un casque et l'expérience lui donne la nausée ou n'a pas été pensée vraiment pour l'utilisateur, il va mettre le casque dans un coin et il voudra plus l'utiliser. Donc c'est, enfin, souvent j'en parle avec l'écosystème réalité augmentée et réalité virtuelle sur l'importance de l'expérience utilisateur et de voilà prendre soin en fait de l'utilisateur. Et ça c'est un de nos gros focus. Donc voilà, rendre accessible la plateforme France et à l'étranger. Et ouais, voilà,
C'est déjà très bien.
c'est déjà un beau ouais, un
C'est
bel
un beau
objectif.
challenge. Et donc maintenant, on va s'intéresser forcément à la période qu'on a vécue ces quelques semaines. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue business?
Alors business, ça nous a ouais bien mis claque dans la tête. Hein. Surtout que moi j'étais à New York. Enfin, je suis arrivée à New York le jour où Trump a annoncé la fermeture des frontières.
Ah ouais,
Donc niveau timing encore une
ok.
fois, ouais non, j'aurais jamais dû. Mais on avait des très très beaux rendez-vous et des beaux
Ouais.
events quand même prévus. Mais donc j'atterris le mercredi, je sais plus, c'était le 11 mars. Hein. Donc on atterrit et là depuis ma chambre d'hôtel je vois Trump qui annonce dans 2 jours fermeture des frontières, cassez-vous de là les Européens. Je fais bon bah ok. Du coup j'ai passé 20 heures
Ah ouais.
à Manhattan, c'est bah, un peu honte, mais bref du coup voilà on est revenu et les US c'est compliqué encore maintenant hein,
Oui, c'est très
ça
compliqué.
va prendre ouais.
C'est encore
C'est pour ça qu'on
beaucoup
se
de
dit qu'on
cas.
a quand même beaucoup de chance en
On a bien
France, on a
su
été hyper
gérer, ouais,
aidés.
pour l'instant, c'est
Il y a eu
on peut pas
beaucoup
se
d'aides
plaindre.
déployées, c'était assez incroyable. Après, enfin,
Exactement.
c'est maintenant que ça va être plus compliqué hein, pour les
Oui.
business, pour nous on le voit avec des clients qui sont un peu enfin, posture assez compliquée, que ce soit des petites agences, etc. Qui, enfin, c'est maintenant que ça va être compliqué, sans le
C'est
chômage
ça.
partiel, etc.
Oui,
On va
puis en
voir un
espérant
peu
qu'il n'y ait pas
comment ça va
de
évoluer.
deuxième vague aussi, parce que c'est
Aussi,
beaucoup de
c'est
boîtes
pas dit.
dépendent
On
de
voit
ça aussi.
que complètement, et on voit plusieurs pays, villes qui commencent à reconfiner un petit peu. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Donc niveau business, bah, tout a été soit annulé, soit décalé. Voilà, mais heureusement, bah, on a levé des fonds juste avant, donc on a été très résilients. On a arrêté les recrutements qu'on avait prévus en plus. Donc voilà, par contre, ça a été. Enfin, je le vois plus comme une opportunité dans le sens où on a pu vraiment se concentrer en fait sur le développement. On a pu bah, plus mieux écouter aussi nos utilisateurs, développer les fonctionnalités qui étaient le plus voulues. Donc voilà, la cadence enfin, en termes de développement produit, on n'a pas trop souffert, on n'a pas eu trop de ralentissement. Donc ça, c'est une bonne
Ok,
chose.
tant
Personne n'est au chômage partiel, hein,
mieux.
tout le monde a travaillé.
En remote.
Même l'équipe marketing, ouais, tout le monde en remote. On avait déjà, enfin, avec les grèves, avec, donc, on était déjà bien préparé pour la remote, donc ça, c'était une bonne chose. Plus on a trois employés qui sont full remote, donc tous nos outils en ligne,
Vous étiez prêt.
Un peu full virtuel, ouais, on était prêt. Sauf que bah, on a des bureaux bah, qui étaient vides, du coup.
Ouais.
Mais donc voilà, niveau business, ouais, ralenti, mais là, on voit que ça commence à reprendre depuis début juin. On n'arrête pas, on a vraiment tous les jours des démos, des super, des beaux deals à venir. Donc, on voit que justement, au final, je le vois vraiment déjà par nature. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc c'est tout est opportunité, même quand c'est le pire moment possible. Non, ça va aller, on va s'en sortir. Et justement, en fait, bah, pour la première fois de l'histoire, on a eu quand même presque la moitié de la population enfermée chez soi. C'est assez incroyable quand même, parce qu'on, enfin, quand tu te poses, moi, vraiment, j'étais là, mais c'est dingue, quoi. Mm. On est tous enfermés chez soi. Mais si tout le monde, mais imagine, si tout le monde avait un casque de réalité virtuelle, mais trop bien. Enfin, nous, du coup, bah, on s'éclatait, on se faisait des apéros virtuels, on se faisait, mais voilà, ça arrivait un peu trop tôt, ce Covid.
Vous êtes fait des apéros virtuels en réalité virtuelle?
Ouais, on fait des meetings en VR, en réalité augmentée. On a donc notre partenaire Magic Leap qui est aussi, enfin voilà, on a des appareils, on a un peu tous les appareils possibles. Donc chacun était équipé chez soi avec des appareils immersifs. Ouais. On a pu aussi pas mal y jouer, c'est sympa. Mais voilà, en fait, ça a surtout fait prendre conscience de l'importance du numérique et accélérer les usages du numérique. Que ce soit, tu vois, les vidéoconférences, Zoom. Mm. Bah là, on est sur Zoom, et enfin, c'est un exemple parfait.
C'est clair.
Ils sont passés de 20-30 millions daily users à 300 millions.
Ouais.
C'est un délire. Et au final, pourtant, les visioconf, ça existe depuis plus de 10 ans, 10, 15 ans. C'est pas nouveau. Mais c'est vraiment là, pendant le confinement, qu'il y a eu une véritable accélération. Cette fameuse transformation digitale prônée depuis des années maintenant par grands groupes, etc. C'est maintenant qu'elle a vraiment eu lieu. En tout cas, elle était véritablement accélérée, dans le sens où des entreprises qui n'avaient pas du tout l'habitude du télétravail, du remote working, a été obligée, contrainte de le mettre en place. Et même si au début, c'était un petit peu difficile, hein, les premières semaines, après, ils se sont rendus compte que, bah, ouais, en fait, c'est pas si mal. En fait, ça save le temps le temps de transport, voilà, et ça fait prendre conscience à plein de monde que, bah, au final, le virtuel a son intérêt.
Je pense que ça a fait évoluer les mentalités dans certaines entreprises, c'est sûr.
Complètement. Plus des secteurs qui vont devoir complètement se réinventer.
Exactement.
Soit la retail, le luxe. On n'a jamais eu autant de demandes du luxe aussi proposer leurs produits en réalité augmentée, faire des défilés virtuels. Ça, on a pas mal avec les Fashion Week qui seront virtualisés complètement. En septembre, ouais, y a pas mal de trucs assez sympas qui vont arriver.
Ok. Et maintenant, on va parler des rencontres et de l'entrepreneuriat en général. Sur les rencontres, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap dans ton business?
Plein. Il y en a eu plein. Enfin, si j'ai un conseil à faire au sein d'entrepreneur, c'est s'entourer. Vraiment, surtout, bah, moi, voilà, en montant l'entreprise à 20 ans, sans avoir fait d'école avant, j'avais tout à apprendre. J'ai toutes les conneries possibles, je pense. Bon, pas toutes, mais j'en ai fait quand même pas mal. Mais voilà, dans le sens où dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, je demande à mon entourage d'entrepreneurs, d'investisseurs. J'ai eu pas mal de mentors. Bah, dès cette première levée de fonds, j'ai eu Jean-Pierre Martin, un de mes investisseurs qui m'a un peu coaché toutes les semaines.
Super.
Et le Galion Project, par exemple, qui est le, je sais pas si tu connais, donc le think tank des entrepreneurs porte croissance, et justement, enfin, ça aide beaucoup d'avoir des retours d'expérience.
Oui, puis des gens, des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi et qui, du coup.
Ouais, c'est ça, qui sont au même stade, qui scale plusieurs dizaines d'employés. Et. Parce qu'au final, on n'en parle pas assez, mais l'entrepreneur est quelqu'un de très seul. Et vraiment, à des moments, c'est dur. Tu vois, on bosse comme des fous, on peut bosser 100 heures par semaine. C'est compliqué d'avoir une vie sociale à côté. Et du coup, d'avoir des moments pour échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, qui ont pu régler tel ou tel problème avant. Voilà, on peut s'entraider apprendre des uns des autres.
Ouais, clair. Et seconde question, est-ce que tu peux me citer deux ou trois entrepreneurs qui t'inspirent?
Alors, bah, il y en a beaucoup. Oussama Ammar, clairement, ses vidéos. Moi, j'apprends beaucoup en regardant aussi des vidéos. Je lis beaucoup, mais je regarde aussi beaucoup, beaucoup de vidéos et les vidéos de Oussama Ammar. Je pense que
c'est clair.
C'est toute une génération qui a pu
exactement.
S'identifier, apprendre plein de choses.
Sur coup d'État, notamment. Mais je pense que c'est la personne que j'ai eu le plus en termes de ref, en fait, de gens qui disent que c'est que Oussama les inspire, quoi. C'est vraiment c'est
bah ouais,
un classique.
Clairement, enfin c'est sinon enfin je pense qu'on n'a pas besoin d'être inspiré par des personnes connues, dans le
oui,
sens où moi je suis vraiment inspiré par mes équipes. Ils m'apprennent énormément de choses, c'est dans les deux sens en fait, tout le temps.
Exactement.
Et je suis inspiré par mon associé. On se complète parfaitement, on se ressemble aussi beaucoup. Je suis inspiré par plein de gens, plein de choses. Et ouais, c'est pas forcément une figure qui m'inspire. Je sais pas trop comment.
Non, mais je comprends parfaitement. Et troisième question, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat?
Qui hésiterait, encore une fois, ouais, s'entourer, avoir des retours d'expérience, avoir conscience aussi de la difficulté derrière, que clairement tout n'est pas tout rose, quand on ouvre les magazines, on raconte que ce qui est cool, on raconte les levées de fonds. Déjà, les levées de fonds, c'est un peu un mythe, dans le sens où ça arrive pas souvent. Que c'est absolument pas un critère de réussite. Enfin, c'est
exactement.
Pas,
Et puis quand ça arrive, ça transforme beaucoup de choses dans ta boîte. Le fait aussi de que
ouais.
tu aies un board, que tu n'es plus 100% de ton capital. Enfin, c'est une
ça.
Levée. C'est une levée. C'est pas juste de l'argent qu'on te donne comme ça. Et puis fais-en ce que tu veux. Non,
c'est ça. Mais moi, tu rends des comptes.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est sûr.
Non, c'est ça. Et voilà, et pas non plus glorifier et dire que c'est un goal à atteindre, enfin vraiment un objectif, alors que non, c'est limite, enfin, les problèmes commencent après.
Exactement.
Si tu ne lèves pas et tu arrives à bootstrapper ton business jusqu'au bout et ensuite lever beaucoup, mais quand tu as déjà cette traction, etc., mais tant mieux. Et encore une fois, enfin, tous les entrepreneurs ont leur histoire, tous les produits, les business, c'est pas, il n'y a pas qu'une route en fait. Il y a mais autant de routes que d'entreprises, que d'entrepreneurs. Et c'est pas parce qu'une route a fonctionné pour un entrepreneur qu'elle fonctionnera
exactement.
Pour tous les autres. Et voilà, il faut aussi se construire cette route en apprenant des autres routes et en sachant que ils en sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont évité tel ou tel roadblock.
C'est clair. C'est pour ça que ce podcast existe aussi. C'est parce que sur les 24-25 entrepreneurs que j'ai interviewés, il n'y a absolument aucun
c'est
entrepreneur,
génial,
aucun
ouais,
parcours qui se ressemble.
Bien.
Et c'est juste normal en fait. Donc, c'est cool.
Ouais, donc voilà, s'entourer, échanger, partager. En fait, c'est vraiment quand on partage aussi. En même temps, je partage. J'ai beaucoup, beaucoup appris des communautés, de mes investisseurs, des différents entrepreneurs. Maintenant, je partage aussi. Parce qu'au final, même si je suis toujours très jeune, j'ai que 24 ans, il y a eu quand même pas mal de choses dans la boîte, pas mal d'erreurs, pas mal de. Mais voilà, on apprend à chaque fois. Chaque erreur, c'est une leçon à apprendre, à en tirer. Et voilà, et après,
très bien.
Tout le monde peut entreprendre.
Exactement. Et puis, on va finir par deux questions. La première, c'est: y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Si on n'a pas,
je sais pas,
pas
peut-être un peu. Non, ouais, on a quand même parlé de pas mal de choses. Après, peut-être, moi, je suis quelqu'un d'assez engagé dans le sens où, je suis une femme. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les nouvelles technologies, dans l'entrepreneuriat. Plus de femmes qui lèvent des fonds, qu'on soit mieux représentées. Au final, la parité, elle n'y est pas du tout. Et on a besoin d'être plus visible. Et
c'est
partie
clair.
De mes actions, que ce soit avec Sista Starter, avec Woman in AI, Femme Entrepreneur. Enfin, je suis pas mal engagée.
Ouais, il y a de plus en plus d'initiatives.
Ça, c'est
vraiment bien. Il faut vraiment les soutenir. Je pense aussi à Gold Up, forcément de The Family, avec Alice Zaguri notamment. Donc, c'est vrai que c'est des initiatives qui sont de plus en plus présentes et il en faut encore plus pour que justement ça devienne une normalité en fait. Et pas qu'on...
Complètement. J'aurais bien aimé petite voir des vidéos de plein de femmes entrepreneurs réinventer le monde. Et voilà, je pense que ça aurait. Après, ça n'empêche pas de réussir après, mais voilà, il faut qu'il y ait plus de. Se dire que c'est pas parce que je suis née comme ci, comme ça, si je suis de tel genre, de telle origine, de telle couleur, etc., que je vais m'empêcher de faire quelque chose.
Exactement.
Voilà, moi je suis née dans le 93, j'ai grandi dans le 95. Je suis une famille enfin, moitié arabe, moitié française. Enfin voilà, et ça m'a pas empêché de monter l'entreprise, d'être aujourd'hui 25-30 dans les équipes, d'avoir un produit sympa. Encore plein de choses à faire. Il y a tout encore
Exactement.
à prouver toujours. Mais voilà, je me suis pas dit. Même si à des moments, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, le syndrome de l'imposteur,
Oui, bah ça
on l'a
forcément.
régulièrement. C'est dur de ne pas l'avoir. Mais voilà, ça aide aussi d'échanger avec d'autres personnes, ouais, et de s'identifier aussi avec ces
Carrément,
personnes.
carrément, carrément. Et puis dernière question, est-ce que tu peux me donner des noms d'entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains épisodes?
Ouais, bah plein, mais bah du coup, pour
Cite-moi-en deux
continuer
ou
avec ce que je viens
trois.
de dire, ouais, bah du coup, bah des femmes entrepreneurs,
Ouais.
bah du coup, Agathe Wauthier, je pense que ce serait pas mal, qui est
Ok.
la fondatrice du Galleon Project, qui pourra
Ouais.
aussi expliquer un peu ce qu'elle, ouais, les modèles qu'elle trouve du coup chez les entrepreneurs qui réussissent, ça va être hyper intéressant. Après, pareil pour les différents réseaux, donc Sista, Starter, ça peut être Tatiana, Roxane Barza, ça peut être intéressant. Ah oui, tu m'as dit que 2-3, parce que sinon il y en a
Ah
plein
non, mais tu
d'autres.
vois, ça me va, c'est bien, c'est bien, c'est parfait.
Ok.
Donc je te remercie Soraya pour cet épisode et puis à
Ben
bientôt
merci,
sur Salam
merci à toi.
Entrepreneur et puis sur Minsar aussi. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Minsar.
Yes, venez, venez. C'est gratuit la création, allez-y, éclatez-vous.
C'est
N'hésitez
parfait.
pas à me contacter. Ben merci encore François et bravo pour ce que tu fais. Hein. C'est hyper utile, inspirant. J'ai regardé
C'est
tous tes
gentil.
podcasts avant et
C'est
c'est top,
sympa.
c'est génial.
Merci beaucoup. Ciao.